Merci d'écouter RFI. Il est 5h30 à Paris, Luanda et Kinshasa, 4h30 en temps universel. Et c'est l'heure de retrouver Nemo en piste. Bonjour Nemo.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Les invitations sont lancées, mais y aura-t-il des discussions directes entre Kinshasa et le M23 mardi prochain en Angola?
C'est en tout cas le calendrier annoncé par Luanda après la rencontre entre João Lourenço et Félix Tshisekedi. Invitation reçue, dit-on, à Kinshasa où l'on refuse toujours tout contact direct avec le M23. De son côté, le groupe armé soutenu par le Rwanda reste silencieux et pointé du doigt par Human Rights Watch d'avoir recours à des méthodes violente dans les zones qu'il contrôle, membres de la société civile ou journalistes arrêtés, parfois même des assassinats, dénonce l'ONG. 7 ans désormais après la signature de l'accord de paix au Soudan du Sud, les craintes d'un nouvel embrasement sont élevées. L'IGAD tente de prendre les devants, craignant une régionalisation du conflit. Forte tension également au Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, sous contrôle du TPLF, où deux de ses factions se sont affrontées cette semaine. Tout va bien, en revanche, entre l'Inde et Maurice, on revient sur la visite de 2 jours de Narendra Modi sur l'île. L'Angola donne rendez-vous aux autorités congolaises et au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda mardi prochain, le 18 mars, pour des discussions directes. Une annonce faite hier au lendemain de la rencontre à Luanda entre homologues angolais, João Lourenço et congolais, Félix Tshisekedi. Du côté de Kinshasa, on confirme avoir reçu une invitation, mais on ne confirme pas pour l'heure une participation. Les précisions de Patien Ligodi.
Une rencontre de haut niveau entre les autorités congolaises et angolaises était bien prévue lundi 10 mars à Luanda, mais n'a finalement pas eu lieu. Mardi, les choses se sont accélérées et avec une délégation restreinte, le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu dans la capitale angolaise. La question des échanges directs entre Kinshasa et le FCM23 a bien été abordée. Cependant, la position officielle de Kinshasa demeure inchangée. Pas de discussion directe avec la FCM23, affirme l'entourage du président congolais. Interrogé par RFI, la porte-parole de Félix Tshisekedi, Tina Salama, a confirmé qu'une invitation avait été envoyée aux autorités congolaises, tout en insistant sur le cadre précis des échanges.
Si ça devait se faire, en tout cas, ça doit être dans le cadre de la résolution 2733 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous renvoie aux deux processus, donc Luanda et Nairobi. Et pas que la résolution du Conseil de sécurité, il y a également les résolutions, on va dire, les conclusions du sommet de Dar es Salaam qui également propose que tout se passe dans le cadre de ces deux processus, donc Luanda, pour les discussions politiques entre États avec le Rwanda, et puis Nairobi avec les groupes armés. Et c'est dans ce cadre-là que nous estimons que le M23 devrait faire partie.
De son côté, la FCM23, également en contact avec Luanda, reste silencieux et s'abstient de tout commentaire. Une source interne au mouvement a néanmoins indiqué à RFI qu'aucune invitation officielle n'avait été reçue jusqu'à hier soir.
Le M23 qui multiplierait les pressions sur l'espace civique dans les zones qu'il contrôle dans l'est de la RDC. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch diffusé hier, d'arrestation de membres de la société civile ou de journalistes à l'assassinat de certains d'entre eux. Ces méthodes violentes semblent se généraliser dans les Kivus, selon l'ONG, et parfois avec l'appui du Rwanda. Paul Lorgerie.
Depuis la prise de Goma fin janvier, puis de Bukavu en février, les pressions à l'encontre des activistes, des journalistes et des réfractaires se sont multipliées, y compris contre ceux qui tentaient de s'échapper par le Rwanda, précise Clémentine de Montjoie, chercheuse chez Human Rights Watch.
Il y a effectivement plusieurs personnes qui ont été battues. Dans le cas de la personne qui a été transférée par les autorités rwandaises au M23, le porte-parole du M23, Laurence Kanyuka, nous a confirmé que les M23 avaient demandé à ce que cette personne soit détenue et ensuite transférée. Cette détention était en raison de son travail sur le conflit, en disant que c'était parce qu'ils étaient entre guillemets contre le M23.
Point d'orgue de ces abus, la mort dans des conditions obscures du chanteur Delka Tidengo à Goma, ou encore de l'activiste de la Lucha, Pierre Katema Biamungu. Des accusations rejetées en bloc par les rebelles qui, dans un tweet, se défendent d'avoir arrêté ou maltraité des journalistes et des activistes et qui dénoncent, je cite, un abus d'influence pour ternir l'image de leur organisation. Clémentine de Montjoie tient pour autant à préciser que, avant l'arrivée du M23 dans ces villes, la situation était loin d'être parfaite.
Beaucoup de journalistes faisaient face à des pressions et des menaces de la part des autorités congolaises qui cherchaient aussi à contrôler la manière dont ils couvraient le conflit.
Le rapport note par ailleurs que l'accès aux zones occupées par le M23 se fait avec le concours de hauts responsables rwandais, y compris des membres du porte-parole du gouvernement rwandais.
La situation dans l'est de la RDC au cœur d'un sommet de la SADC ce jeudi. L'organisation sous-régionale devrait notamment clarifier le sort de la force armée qu'elle y déploie, la SAMI DRC. On y revient ce matin avec Pauline Azili depuis Kinshasa. Le Soudan du Sud est aux portes de la guerre. Le cri d'alarme de l'IGAD au sortir d'un sommet virtuel de ses chefs d'État tenu hier. Sur les 8 pays qui composent l'organisation de la Corne du continent, seul le principal concerné, le Soudan du Sud, était absent des débats. En plus de s'inquiéter de la montée des tensions à Djouba, l'IGAD a demandé la libération des membres de l'opposition détenus et mis en avant des mesures pour sauver l'accord de paix de 2018 dont elle est la principale garante. À Djouba, la correspondance de Florence Mietto.
Si les tensions s'intensifient au Soudan du Sud, écrit le rapport du secrétariat de l'IGAD, le risque d'une reprise des hostilités généralisées est grand, avec des répercussions lourdes dans toute la région. Afin de faire baisser ces tensions, les chefs d'État est-africains demandent donc d'une part, je cite, « la libération immédiate des fonctionnaires détenus, à moins que des preuves crédibles ne justifient des poursuites judiciaires ». Une enquête est en outre confiée à l'instance de surveillance du cessez-le-feu sur les événements du 7 mars à Nassir. Un général ainsi qu'un employé de l'ONU ont été tués pendant une opération d'évacuation dans la zone de conflit. Décision a également été prise de former une sous-commission sur la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud. Composée de ministres de la région, elle visitera Djouba très prochainement. En revanche, le communiqué n'évoque pas la présence de soldats ougandais au Soudan du Sud, annoncé par Kampala mardi mais nié par Djouba. Ce déploiement fait craindre une régionalisation du conflit. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Inquiétude également autour du conflit au Soudan. L'Union africaine s'est dite gravement préoccupée après la formation d'un gouvernement parallèle par les paramilitaires FSR et leurs alliés. L'UA craint un énorme risque de partition du pays. On fait un point dans nos prochaines éditions sur les derniers développements de cette guerre et notamment sur les avancées de l'armée dans Khartoum. Vive tension également à quelques centaines de kilomètres de là, à Mekele précisément, capitale régionale du Tigré dans le nord de l'Éthiopie. Des affrontements y ont eu lieu mardi entre deux factions du TPLF, le Front de Libération du Peuple du Tigré qui dirige la région. D'un côté, on retrouve les TDF, les forces de défense, elles soutiennent Debretsion Gebremichael, le président du TPLF. De l'autre, la TIRA, l'administration régionale par intérim du Tigré, dirigée par Getachew Reda, ancien vice-président du parti. Une scission Gaël Lalex qui fait craindre un retour de la guerre dans le Tigré.
L'ambassade de France n'a pas hésité hier à classer l'ensemble de la région tigréenne en zone rouge. Compte tenu des affrontements internes en cours au Tigré, tout déplacement y est proscrit, explique un mail de la chancellerie à ses ressortissants. Mekele est resté calme hier malgré les violents échanges de tirs de la veille. Selon des habitants, les TDF ont tenté de mettre la main sur des bureaux administratifs, mais des jeunes de la ville les en ont empêchés. Les TDF encerclent tout de même aujourd'hui l'aéroport de la capitale régionale. Sur ses réseaux sociaux, le TPLF annonce également avoir pris le contrôle de la deuxième plus grande ville du Tigré, Adigrat, et y avoir nommé un maire. De son côté, Getachew Reda, qui dirige la TIRA, a fui à Addis Abeba, où il a demandé hier l'intervention du gouvernement fédéral. Sur X, il dénonce un plan insensé visant à installer une faction illégale du TPLF au pouvoir. Ces luttes intestines au sein du parti tigréen inquiètent les observateurs, d'autant plus que la tension entre l'Éthiopie et l'Érythrée voisine est à son paroxysme. Certains redoutent qu'Asmara et Addis Abeba se mènent une guerre par procuration sur le terrain tigréen. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Clap de fin ce mercredi sur la visite de Narendra Modi à Maurice, le premier ministre indien en visite sur l'île à l'occasion de sa 57e année d'indépendance. Deux jours pour renforcer le partenariat stratégique autour de la sécurité maritime, du commerce en devise nationale et des liens économiques. Une visite qui fait entrer les deux pays dans une nouvelle ère de coopération, Abdoulaye Rally.
Cette alliance rehaussée entre Maurice et l'Inde répond à des impératifs économiques et géopolitiques. Elle est concrétisée par 8 protocoles d'accord. Symbole de cette forte coopération institutionnelle, l'Inde s'engage à financer la construction d'un nouveau parlement mauricien. Sur le plan économique, la Banque centrale indienne et la Banque de Maurice ont signé un accord pour faciliter l'utilisation des monnaies locales dans des échanges commerciaux. Ce mécanisme ambitieux permettra aux deux pays de réaliser des transactions en roupies indiennes et mauriciennes. En matière de sécurité, New Delhi confirme son statut de partenaire privilégié pour la protection des intérêts nationaux mauriciens dans l'océan Indien, l'Inde apportera son expertise et ses moyens pour aider Maurice à lutter contre la pêche illégale et la piraterie maritime. Cette coopération se traduit également par un accord technique de partage d'informations entre la marine indienne et les autorités mauriciennes. Enfin, Narendra Modi a annoncé l'évolution de son projet de sécurité régionale, SAGAR, vers une vision plus large pour, je cite, la sécurité et la croissance du Sud global. Abdullah Erali, pour lui, RFI.
Et puis on vous présente ce jeudi une chef étoilée, la béninoise Georgiana View, qui sort son premier livre intitulé « Oui, chef, du Bénin à l'étoile Michelin, itinéraire d'une battante ». Si on pouvait déjà déguster sa cuisine dans le sud de la France à Nîmes, c'est désormais également possible à Cotonou, où elle signe la carte d'une brasserie dans un grand hôtel de la ville. Et c'est en cuisine que Magali Lagrange l'a rencontrée.
Écoutez-moi les échalotes, s'il vous plaît.
La chef s'affaire en cuisine avec son équipe. Quand Georgiana View n'est pas en France, elle est là, dans cette nouvelle brasserie de Cotonou dont elle signe la carte. Produits locaux dans des recettes françaises et recettes locales, travaillées avec une touche française.
En ce moment, à la carte, par exemple, on a un plat. C'est un plat de mon enfance, que ma mère faisait beaucoup, qui est la brochette de langue de bœuf. Dans la cuisine française, on a aussi un plat à base de langue de bœuf. On en a même plusieurs. Et je trouvais ça incroyable, ce côté un peu caramélisé autour, très fondant à l'intérieur. Et ce goût de barbecue, quoi. Donc, je fais exactement pareil, mais seulement, moi, je l'agrémente de moyo, qui est une préparation de tomates fraîches, oignons frais, citron, huile, sel. Je rajoute un jus de viande, donc technique française. Et la garniture, c'est une polenta de gari.
Nettoie autour, s'il te plaît.
La chef passe en salle, parle avec les clients. Georgiana View se sent ici en phase de découverte du territoire, des clients, des produits. Partie il y a 25 ans, c'est la première fois qu'elle revient au Bénin pour travailler.
Aujourd'hui, je fais ces allers-retours. Je suis heureuse d'avoir cette opportunité de pouvoir venir faire quelque chose, en tout cas pour le pays. L'équipe, elle est très jeune et je suis ravie de pouvoir, autrement que de les inspirer de loin, pouvoir être avec eux. Alors, c'est pas tous les apprentis du Bénin avec qui je travaille, mais en tout cas, ça commence déjà quelque part et ça, je suis contente.
Ne lui demandez pas quels seront ses prochains défis professionnels. La chef espère déjà pérenniser le restaurant et pourquoi pas donner à d'autres l'envie de venir travailler là.
À Cotonou, il est 5h42.